Non si può mangiare il jus de betterave avec le jus. Comment ça s'appelle en indi, j'ai oublié. Crème. Alors ça, c'est pas encore les herbes amères. Enfin, je vais vous expliquer brièvement. Au temps où le céder a été institué sous la forme que nous avons, c'est-à-dire au temps du deuxième flanc, on avait l'habitude, avant de commencer le repas, de prendre des herbes. Je ne sais pas si on peut vous dire que ça tenait lieu de l'apéritif. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont étudié les mœurs des sociétés de ce temps-là, en particulier la société romaine, où il y avait l'habitude était qu'on prenait le repas assis sur des didans et on apportait des tables. Et chaque plat, on apportait une table différente. Bon, alors la coutume du céder à cette époque était assez analogue. On apportait une première table devant les assistants où il y avait des herbes qu'on avait l'habitude de manger avant de commencer le repas. Et il y a déjà dans ce livre du Carpas le rappel de ce que je vous appellerai tout à l'heure dans le déroulement du céder, le repas, ce qu'était la commémoration du repas de l'origine. Le repas de l'origine, c'était des premiers temps de l'humanité, c'était du pain non levé, de la viande grillée et des herbes. C'est la raison pour laquelle ça va constituer l'essentiel du repas du céder. C'est-à-dire, pour rattacher au sujet, tout se passe comme si on faisait d'abord une sorte de pré-céder. Le carpa, c'était le maro du temps de Adam Arishon. Une sorte de céder du temps du premier homme. Et je vous rattacherai cela tout à l'heure. La sortie d'Égypte, à la sortie d'Égypte, le rite de commémoration sera de faire un repas qui rappelle le repas des premiers temps de l'humanité, alors que la civilisation n'était pas encore développée, et donc le repas qui était constitué de pain non levé, la matza, qui était connu avant le temps de la sortie d'Égypte, et nous verrons les différentes significations qu'elle prend à ce moment-là, la viande grillée, et les herbes. Alors ici, il s'agit du carpas qui rappelle ce qu'était le céder du temps d'avant la sortie de l'eau. Est-ce que c'est suffisamment bien? Ensuite, sur le plateau, que vous avez peut-être aussi expliqué sur la même page, sur le plateau, il y a trois matzot. Alors, dans la quatrième étape du céder, qui s'appelle Yahat, Yahat, ça veut dire, khatsi. Yahat, c'est le verbe qui signifie casser en deux. Alors, sur le plateau du céder, il y a trois matzot. On prend la matzah du milieu. Les trois matzot correspondent à un certain nombre de correspondances, mais en particulier aux trois catégories de l'identité d'Israël, c'est-à-dire Kohen, Lévi, Israël. Alors, on prend la matzah du milieu et on la casse en deux. Une partie plus grande que l'autre. Alors, la plus grande partie sera mise cachée sous la nappe. Vous la retrouverez à Tzafou plus tard. Attendez que je ne me trompe pas si c'est la plus grande. Oui, non, la grande, on la remet pour la moitié. La plus petite partie, on la cache sous la nappe. Je vais vous expliquer comment doit faire ce quatrième rite de Yahat. En général, vous avez une matza ronde, même si c'est une matza carrée, c'est encore préférable. On essaye de la casser dans cette forme-là, c'est-à-dire la plus grande partie, une forme de vav, qui est de dalle, et la deuxième partie, une forme de vav. Et si c'est une matza ronde, on essaye aussi de le casser. C'est clair?
Quand c'est
une grande, une plus grande que l'autre, ok? Bon, c'est pas difficile, vous verrez que ça se fait tout seul. Si vous réussissez. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, vous n'y arrivez pas. L'essentiel, c'est qu'une partie soit plus grande que l'autre. Alors, la partie qui restait plus grande, on la remet entre les trois morceaux. La partie plus petite, on la cache sous la nappe, à côté de celui qui est le magi, c'est-à-dire de celui qui fera le rite de la haine, qui servira la scène. Alors, je vais reprendre Kadesh. C'est le qui douche, et c'est donc la première coupe de vin. Je dis ça très rapidement, mais vous aurez à le réapprendre en cours de bibliographie. Alors, là. Chacun des participants au CDR doit avoir une coupe pour lui-même. Et à chacune des coupes, la coupe doit être vue aux trois quarts, au moins aux trois quarts. En principe complètement, mais au moins aux trois quarts. Alors ceux qui n'arrivent pas à supporter le vin lui-même, le riz a exactement la même valeur avec du jus de raisin. Par conséquent, vous prenez du jus de raisin, mais l'essentiel c'est de voir la majorité de la coupe dont la boîte accusée sur le côté gauche. En principe, le CDR se fait en famille. Donc il y a les parents et les enfants. Mais même s'il y a des invités, des cousins, des voisins, les parents doivent être assis autant que possible sur des chaises qui rappellent les fauteuils de ce temps-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et avec des coussins. Parce que le rite, c'est un rite de commémoration, de libération. Et le jour du CDR, quels que soient les temps de persécution ou d'esclavage au sens strict, on prenait la position des hommes libres de ce temps. C'est assez parallèle à ce qu'on étudie, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les mœurs du temps de la société romaine. Et dans la société romaine, il y avait les plébéiens et les... comment on les appelait les autres ?
Patriciens.
Ah, les patriciens et les plébéiens. Alors, les plébéiens, ça voulait dire les esclaves. Patriciens, ça voulait dire les aristocrates. Alors, les juifs étaient, en général, dans la condition des plébéiens, c'est-à-dire des esclaves, mais le sort du CDR, puisqu'on commémore une libération, alors on se mettait dans la position des hommes. La coutume restait de réaliser le rite du CDR dans cette année. Ceci dit, il y a un autre sens plus profond du point de vue de la condition du même. Pour le moment, aujourd'hui, on va voir les choses assez rapides. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, c'est de se mettre dans la condition qui était celle de la classe de la société qui était libre, qui perd. Donc, accoudé sur le côté gauche, et la coupe doit être bue pratiquement aux trois quarts. Ce qui est chez vous, parce qu'on n'a pas dit la bracha sur un. Pas suffisamment de mesure. Alors, je reprends. Kadesh, c'est la première coupe. Une fois qu'on a fini le kiddush, le kiddush se mit debout, on s'assoit pour boire le vin, accoudé sur le côté gauche. Prenez votre texte du kiddush, vous verrez que bon, cette année, il n'y a pas tellement de difficultés, puisque le premier CDR, c'est mercredi soir, et le deuxième CDR, c'est jeudi soir. C'est bien ça? Donc, ceux qui seront en route d'arrêt, vous allez avoir trois jours de suite. Hein? Jeudi, vendredi, samedi. Non, jeudi, vendredi, samedi. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Bien, alors, ceux qui font ça en route d'arrêt, vous allez voir. Ceux qui étaient là, que je sois bien clair, notez que vous ne vous trompiez pas. Ceux qui étaient là, vous êtes considérés comme étant déjà en Israël, peu importe le passeport ou la carte d'identité, c'est un problème. Et par conséquent, vous n'avez à faire qu'un seul CDR en Israël. Ceux qui étaient là, ce quoi, parce qu'il a déjà fait une fête de l'année hébraïque. Ceux qui n'étaient pas là, ce quoi, vous devez faire deux CDR. C'est clair? S'il vous plaît, on va voir ça en clair. Qui était là, ce tout ça, vous étiez là, ce quoi?
Oui.
Qui n'étaient pas là. Bon, alors ceux qui n'étaient pas là, vous devez faire deux CDR avec les gens de la galerie. Alors que je vous explique, pour ceux qui rentrent et qui ne font qu'un CDR, vous n'avez donc que le premier jour de fête qui est un jour comme Shabbat. Déjà, la journée du vendredi, vous êtes en hall à moelle. Seulement, vous ne devez rien faire en public qui choque ceux qui continuent en galoute à faire la fête du deuxième. Pour que je vous explique ça en détail. C'est-à-dire, à la fin du premier jour de fête, vous faites la Havdalah, pendant que les juifs de la Gola font le kiddush du deuxième jour de fête. Ça peut vous paraître paradoxal, mais sur la même table, il faut faire un la Havdalah et la fête est arrêtée, et l'autre c'est le fête. Maintenant, si ça vous paraît trop compliqué, faites deux jours comme, comme la famille vous aime.
S'il vous plaît.
Et en principe, vous n'êtes pas obligé. Et tu me dis,
non, c'est ça.
Bon, alors, dans la Gola, les deux soirs ont dit Cheikh Yannou à la fin du Kiddush. Vous verrez la bracha de Cheikh Yannou à la fin du Kiddush. Tandis qu'en Israël, puis qu'il y a un seul Kiddush, on dit Cheikh Yannou que la première fois. Alors ensuite, Kadesh, ensuite il y a Uchas, c'est-à-dire on se lave les mains sans bracha, parce qu'on va tremper le persil ou le cerfeuil dans le vinaigre ou le salé, suivant les traditions. Ça revient même, que ce soit du vinaigre ou de l'eau et du sel. Vous avez l'habitude de faire
le salé.
Le salé. Et avant de manger le carpas, enfin vous verrez sans détail, on dit la bracha de Boré Péri Adama. Donc on ne dit pas de bracha chez les Sparadis, mais chez les Ashkenazim on dit la bracha. Je veux dire pourquoi on ne dit pas la bracha, parce qu'il n'y a pas une quantité de nourriture suffisante pour que ça puisse représenter un repas. On prend simplement symboliquement, enfin il n'y a pas de symbole, mais symboliquement un peu de cerfeuil. Tandis que chez les Ashkenazis, on considère que même une bouchée à cause du goût du cerfeuil, c'est déjà comme si c'était un plat entier, et donc on dit la voir. Bon, enfin vous faites comme vous avez l'habitude dans votre communauté. Si vous n'avez pas dit la voir, c'est pas grave, il vaut mieux la dire par acquis de conscience. Donc, Kadesh, Urchas, on se lave les mains sans bracha, Karpas, on mange du persil ou du cerfeuil trempé dans l'eau salée, Yachatz, on casse la matzah en deux, en faisant attention que la partie de droite, de la main droite, soit plus grande que la partie de la main gauche. En fait, ce qu'on essaye de réussir, c'est un ré. Vous voyez ? Le dalet et le var du ré. Okay ? Le ré, vous allez retrouver dans Al-Ahmania, tout à l'heure. Et il y a certaines communautés où, pendant qu'on casse la matzah, on récite une phrase, soit en hébreu, soit en araméen, soit en judéo-arabe en général, chez les paradis. Et si vous voulez, vous l'apprendrez. Et on dit, c'est ainsi que la mer Rouge a été séparée en deux au moment de la sortie. Bon, si vous voulez étonner votre famille, je vous l'apprendrai en arabe, comme ça vous allez l'aider. Bien. Ensuite, Yahas, Magi. Alors, la cinquième étape, c'est Magi, c'est-à-dire le fait qu'on va commencer la mitzvah de la Haggadah à l'intérieur du Seder. C'est clair juste là. Bien. Alors, chez les Sfaradim, on a l'habitude que le chef de table, le Magi, se lève, prend le plateau du Seder et le fait passer sur la tête de tous les assistants trois fois. Et sur la sienne. Je vais essayer de vous montrer comment ça se fait. Donc, le Magi se lève, prend le plateau, le place sur sa tête et pas en faisant toucher, mais en fait, comme ça, trois fois, pour constituer la chèvre, c'est-à-dire pour constituer le minyan, la communauté qui va entrer dans le rite du Magi. C'est clair ? Alors, si vous voulez, vous allez noter la formule qu'on dit à ce moment-là, trois fois de suite. Ça aussi, je vous apprendrai à chanter. Alors, bien entendu, ça dépend. Ça va ?
Bon, ça,
Tunisie ? Non. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qui reste d'une très ancienne coutume qui s'est un peu perdue partout avant de commencer la Haggadah. Sauf dans certains villes du Maroc, c'est encore resté. Je me rappelle avoir appris ça sur mon grand-père aussi quand j'étais vieux. Avant de commencer le Magid, la Haggadah, donc après le Kiddush, c'était avant, on était habillé en tenue de voyage, c'est-à-dire avec des grandes djellabas, oui. Ça, et avec une corde autour de la taille, et on prenait la matzah dans un baluchon. Et puis on faisait le tour de la cour avant de commencer avec le peuple. Je me rappelle même que la dernière fois, pas la jeune fille, mais la femme la plus âgée versait de l'eau pour qu'on traverse la mer. En tout cas, ce qui reste un peu partout. Je vous explique le Ritz Farali d'Afrique du Nord. Il y a des différences. Maroc, Algérie, ou même dans chaque ville, il y a des petites différences. Bon, je vais vous dire le rythme que j'ai appris, que je connais. Et si vous avez des formules un peu différentes, faites celle de votre famille. Par exemple, au Maroc, on avait l'habitude de prendre le plateau dans une main et de le présenter aux assistants. Tandis qu'en Algérie, comme je vous ai expliqué, on constitue la communauté.
Sur la tête, sur lequel.
Alors, je vais vous dire quelle est la formule qu'on dit à ce moment-là. C'est juste après, trois fois de suite. Et c'est juste après cela qu'on commence la grève. Alors, cette formule vient déjà du temps du Beit Sheni, c'est-à-dire du temps de la Mishnah. Alors, c'est un mot araméen, copié. Bibihilou, ça veut dire en hébreu Bechipazo, c'est-à-dire avec précipitation. Bibihilou. Behala en hébreu, ça veut dire Behala en hébreu, tu connais? Behala, empressement mais affolé. Vous voyez, Behala. Donc, Bibihilou, ça veut dire c'est avec précipitation. Yatsanu. Allez, Yatsanu. Que nous sommes sortis. Mimitzraï. Ça, c'est la formule de base qu'on retrouve à peu près dans tous les rites. Bibiyou, Yatsanu, Mimitzraï. Au Maroc, on ajoute Halach Marania une première fois. C'est bien ça, oui. Bibiyou, Yatsanu, Mimitzraï, Halach Marania. C'est ça? Oh. Comment on fait au Maroc?
Tout de suite, on sait sur un coup.
C'est ça, oui. Ça, c'est le rythme marocain. Et en Algérie,
la formule est beaucoup plus longue, je vous la mets.
Alors, il y a d'abord la première phrase, Bibilou Yatsanu Mimitzraïm, ça veut dire avec précipitation, nous sommes sortis d'Égypte. Après, il y a la formule suivante, Etmol. Etmol, ça veut dire hier. Haïnou, nous étions. Avadim, esclave. Ayom, Benjori. Ayom, Benjori. Benjori, ça veut dire libre, Benjori. Littéralement, fils de liberté. Benjori. Donc, ça c'est comme ça. Et nous, Benjori. Ayom, car. Quand ça veut dire aujourd'hui, ici, et puis les Shanaaba, le Rochelet, à la prochaine. Non, ça c'est le Halach.
Non, c'est aussi le
genre. Non, ça c'est du Nigeria, pas algérien. Alors, ça y est, vous êtes en majorité algérien, je suppose.
Oui.
Okay. Alors, c'est Etmol, Aïno Avadi, ou assimilé. Etmol, Aïno Avadi, Aïno Benechori. Hayom ka le shana ba Birushalayim.
C'est ça.
Birushalayim. Pas l'Irushalayim, mais Birushalayim. Donc. Alors ça se dit trois fois. Je suis. Pendant que les assistants courbent religieusement la tête. C'est clair. Hayom Benechori. Ayom Khan, les Shana Abba, Birusha. C'est la même formule. C'est à la fin du CDR que la formule change. On dit Yerushalayim Abnouya. Mais pas à ce moment-là. Parce que même ceux qui sont à Jérusalem souhaitent que l'année d'après ils soient encore à Jérusalem. La formule reste.
C'est la même formule.
Comment ?
C'est la même formule.
Que ?
Soit ils veulent être à Jérusalem ou il y a une
autre. Non, à la fin du CDR, ceux qui sont à Jérusalem, même on ajoute un mot. Meshana Abba, Yerushalayim Abnouya. Dans la Jérusalem construite. Parce qu'il nous manque encore des faubourgs. On n'a pas encore fini.
Ça veut dire les Aras, les Aras.
Dans le pays, Aras, c'est le mot araméen pour dire Eretz. Bien. Alors, on commence donc la lecture de la Haggadah. Je vous allez suivre avec moi rapidement, que nous avons fait différentes interprétations. Alors, ça, je prends mes deux livres. Bon, mais dans tous les cas, je vous répète ce que je vous dis souvent à propos des rites. Chacun doit suivre le rite de sa famille. C'est clair. Alors, la première Mishnah, chaque paragraphe s'appelle une Mishnah. La première Mishnah est en araméen, pas complètement en araméen, mais elle est essentiellement en araméen, parce qu'elle a été instituée au temps du deuxième temple, au temps de la destruction du premier temple. C'est-à-dire après la destruction du premier temple, lorsque l'exil a recommencé, alors on a institué comme entrée dans la commémoration de la Haggadah cette Mishnah en araméen. La raison pour laquelle il y a certains textes en araméen et pas en hébreu, c'est un problème pour lui-même, peut-être qu'on le rencontrera dans les études, mais disons, la raison centrale qu'il faut retenir, c'est que l'araméen était la langue parlée par les juifs dans l'exil. Okay? L'hébreu, c'est la langue d'Eretz Israël. Et l'araméen, c'est la langue nationale juive pendant l'exil, le premier exil. C'était la langue de la famille d'Abraham. Il y avait différents dialectes, il y a le chaldéen, il y a plusieurs araméens différents. Enfin, le chaldéen, à proprement parler, c'est la langue de la famille d'où est sorti Abraham, qui restait la langue juive, je dirais très exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un yiddish. En yiddish, le mot yiddish, ça ne veut pas dire juif. Ça veut dire, c'est l'adjectif du mot juif, pas le substantif. Attendez, je m'exprime mal. Pour dire juif, en yiddish, on dit yid. C'est bien cela. Et yiddish, c'est ce qui conserve l'identité juive. Alors, la langue yiddish, c'est du judéo-allemand. Mais chez les Sfardim, il y avait d'autres dialectes, comme le judéo-espagnol, le judéo-arabe, plusieurs judéo-espagnols, le judéo-portugais. Il y a eu même un judéo-français du sud de la France, qui était une très belle langue, avec tout un rite qui a été gardé dans le livre, en judéo-provençal. Je ne sais pas si vous avez rencontré les jurys de judéo-provençal, qui est vraiment une très très belle langue. Tout ça s'est perdu. Enfin, ce qui est resté, grosso modo, c'est le ou les yiddish différents, qui sont vraiment 95% d'allemand et un petit peu d'hébreu. Et de la même manière que le judéo-arabe est à peu près, disons, 80% d'arabe et 20% d'hébreu. Ou le judéo-espagnol, c'est 99% d'espagnol. Et puis de temps en temps, un petit mot en hébreu. Vous voyez à peu près le problème. Alors, le yiddish qui a été parlé comme langue nationale par tous les juifs à la fois, une fois, c'était l'araméen. C'est la raison pour laquelle c'est resté la langue de l'étude, c'est la langue rabbinique. Lorsque les rabbins correspondent entre eux, ils s'écrivent en araméen en général. C'est d'ailleurs aussi une très belle langue, l'araméen rabbinique. Il y en a plusieurs dialectes différents, mais celui qu'on utilise pour la langue de l'étude, c'est vraiment une très belle langue. Enfin, quand vous serez avancé dans vos études, vous apprendrez tout ça. Et pour le moment, apprenez les mots, c'est le plus urgent. Il faut savoir bien se comporter à la marcolette. Alors, c'est la raison pour laquelle cette Mishnah est en araméen. Alors, je vais vous la lire directement, si vous êtes avec moi. C'est l'ouverture du Seder de la Galoute. Et aujourd'hui encore, en Eretz Israël, il n'y a rien de changé. On refait le même texte que le Seder de la Galoute. Ha'alachmarania. Alors, on découvre les matzot. Et je vous montrerai ça dans vos. Dans vos livres, quand est-ce qu'on les recouvrira? Alors, « ha-lachmarania », ça veut dire « voici le pain, ha, voici, ha, ad-lachma », c'est comme l'échel, le pain, « ania », c'est « ani »,« oni ». « Oni », ça veut dire « pauvre »,« misérable », le pain, pauvre. C'est-à-dire, la différence, le pain levé sera appelé un pain riche, c'est le pain des hommes riches, et le pain non levé, c'était le pain des esclaves. On dit en français une galette et pas du pain. Chez les nord-africains, le mot est resté. On dit que la matzah, on dit la galette. Enfin, il vaut mieux dire la matzah comme les ashkenazim, parce que la galette en français, ça renvoie à la galette des rois et c'était pas des rois, c'était des esclaves. Alors,
c'est la galette
du t-shirt. Oui. Halachmania. En fait, la forme originelle était la forme ronde. Quand vous avez les pitons, ce que vous achetez, la pita, c'est du pain levé, mais la matza, vous apprendrez ça dans les vinimes, la pâte doit être travaillée jusqu'à la dernière seconde où on la met au four. Vous êtes sûr qu'il n'y ait pas une seule minute où il y a le temps de lever. Et c'était l'habitude que les esclaves mangeaient ce pain-là, c'est-à-dire du pain non levé. Je ne sais pas, quelqu'un d'entre vous a fait le service militaire ? C'est les biscuits de guerre, c'est vous avez ça. La première fois que vous avez donné des biscuits de guerre, c'est quelqu'un qui avait fait ça. Et je vous signale tout de suite, on l'apprendra aussi dans les vignes. Il y a des gens qui, médicalement, ne supportent pas la matza. Ça existe parmi vous ? Des gens qui sont malades de manger de la matza. Non ? Alors c'est pas grave. Enfin, si, je vous dis quand même quelle est la règle. Le premier jour, il y a obligation de manger la matza, mais pas les autres jours de la fête. Donc, si on ne peut pas supporter, on ne mange pas de pain, bien sûr, on ne mange pas de ramen. Il n'y a pas obligation de manger de la matza. On peut manger des pommes de terre ou de n'importe quoi. Mais le premier jour, il y a obligation de manger le repas avec de la matza. Donc. Alors, halakhmanania, voici le pain pauvre. Dit à Khalou Aratana, qu'est-ce que vous avez dans... Est-ce que vous avez des livres avec Kehalakhma ? Non ? Bon. Alors prenez Halakhmania, Ha, voici, Lakhmania, le pain pauvre, dit à Khalul que on mangeait Abhatana, nos pères, c'est comme Abhatana en hébreu, Abhatana en araméen, Be'arad et Mitzrayim, dans le pays, sur la terre d'Égypte. Arad en araméen, c'est Eretz en hébreu. C'est d'ailleurs une règle dans beaucoup de mots, le tzadé hébreu devient Aïn en araméen. Béara de l'Israël. Comme Yirfin, Yete, Veyechol. Que tout celui qui a faim, Yete, vienne, Veyechol, et mange. Ça me permet de vous dire qu'avant de commencer cette Mishnah, on ouvre la porte de la maison. Il y a des époques où on ne le faisait pas, on craignait les anti-juifs, les voleurs, enfin les brigands. Mais quand vous êtes dans un pays où c'est en sécurité, cette première Mishnah doit se dire la porte ouverte. La porte ouverte, c'est un appel à celui qui est dehors de venir rejoindre le CD. En général, c'est Eliyahu ou un ami, on profite pour venir en plein temps. Alors, Kodirfin et Teveichol, que tout celui qui a faim vienne et mange. Kodirfin et Teveichol, que tout celui qui est dans la nécessité, dans le sens français, c'est-à-dire nécessiteux par exemple. Mais je veux dire, il faut faire une différence. La première formule, c'est celui qui n'a pas de quoi manger, on l'invite à manger. Et ça s'adresse tant aux Goyim qu'aux Juifs. Mais Kodditzrich, c'est celui qui doit, chez qui il y a une nécessité de faire Pessah, alors qu'il vient de le faire avec. Je vous ai fait une allusion à ce moment, quand vous ai expliqué tous les Guérim qui sont sortis d'Égypte. Alors c'est un appel aux Goyim de venir faire Pessah avec eux, c'est-à-dire de rentrer en Israël. Dans la communauté juive. Vous comprenez tout le Kodistri et Teveïsa. Alors, il est possible que vous ayez des invités goy, ou non encore convertis, ça vient même jusqu'à la conversion, jusqu'à la tuila. Alors, ils participent à tout le seder, sauf la Ficomène. Parce que la Torah précise que le Pessah ne pouvait être fait que par ceux qui sont circoncis. Donc, pour le vin, vous savez qu'ils ne doivent pas toucher le vin, on leur sert le vin, et ils participent à tout le céder jusqu'à la ficomène. Et il y a surtout en Europe une raison supplémentaire. Chez les Sfarim, c'était avec les Arabes, c'était moins grave, les musulmans, mais avec les chrétiens, c'est le fait que je vous signalais hier que le christianisme a pris ce rite comme étant le rite païen de l'hostie, de la messe. C'est la raison pour laquelle on ne partage pas la ficomène. Mais pour tout le reste, ils peuvent suivre si vous avez des invités, des voisins, des amis, suivre complètement. Donc, rappelez-vous, il n'y a que deux différences. Le vin, on le leur sert, et puis on peut boire avec une bouche. Et la ficomène, on ne leur donne pas la bouche. C'est la seule chose. Alors, comme dit Sri Hedevichar, que tout celui qui en a besoin vient faire Pessah avec nous. Achata, acha. Achata, ça veut dire cette année. Achata. En hébreu, achana. Cette fois-ci. Hachata, Hacha, cette année, Hacha ici, et Shanaaba, Baran Israël, l'année à venir, l'année qui vient dans le pays d'Israël, Hachata, Ave, cette année esclave, les Ashkenazim disent « Ashata Acharni ». Ok ? Vous suivez ? C'est bien ça ? Les Shanaaba, Benehori, et l'année prochaine, attends, je vais commencer. C'est l'esclave du coup. Ok, donc c'est l'inverse. On fait un suivi sur l'Ordi. Achata Ramdé, c'est les Ashkenazis. Les Sordi disent Achata Achab. Cette année, ici, esclave. Les Shana Abba, Béaran et Israël, Benechorin. L'année prochaine, dans le pays d'Israël, libre. Et les Ashkenazis disent Les Shana Abba, Benechorin. C'est ça ? Eh bien, regarde, ça doit être indiqué. Bon, voilà donc l'ouverture du Sefer. Ça y est. Alors, ça y est. C'est pas grave. Alors ensuite, la deuxième Mishnah, c'est l'ordonnance de la question que posera l'enfant. Alors, quel que soit son âge, c'est le plus jeune assistant qui pose cette question. Et là, il y a une différence d'ordre entre les Ashkenazim et les Sfarad. Bon, aujourd'hui, je voudrais quand même vous donner le plan généralement très rapidement. Vous allez deviner, comme pour les autres textes, chaque mot doit être expliqué pour lui-même. Enfin, les grandes choses générales. Alors, je vais lire d'abord le texte Ashkenaz. Manushana alayla zenikola lelot, la formule est la même. En quoi est différente Manishtana, qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de changé Alayla Azé, cette nuit, Nicolas Léot, de toutes les autres nuits. Et en principe, cette question est posée par l'enfant qui a perçu un comportement différent que les autres nuits. Okay. On s'est arrangé, en fait, on s'est arrangé, l'institution même de la fête, ils sont intrigués et qui demandent qu'est-ce qui se passe. Et on a commencé à prendre le premier plat. Le carpas, comme d'habitude, on prenait des herbes avant de commencer le repas. Et puis, au lieu d'enchaîner sur le repas, on s'arrête et on se met à chanter. Alors, il demande, dès la première Mishnah, à la fin à Anya, il demande qu'est-ce qui se passe. Chevechol alelot, là je prends l'autre Ashkenaz de l'autre. Chevechol alelot, alochlim chamet umasa. Umasa. Voilà comment la question est formulée. Premièrement, toutes les autres nuits, on mange du chametz et de la matza. Ça, c'est la girsa ashkenaz. Alors, les Sfaradim disent chametz au matza, ou du chametz ou de la matza. Tandis que dans le rite ashkenaz, il y a toutes les autres nuits, on mange et du chametz et de la matza. Là, vraiment, la formule est très différente. Okay, on reviendra probablement sur tout ça. Cette nuit, uniquement, tout n'est que matza de la matza. Parce que les autres nuits, c'est toujours l'enfant qui explique sa question. Le Manishtana a quatre niveaux. Deuxièmement, toutes les autres nuits, on mange d'autres herbes. Et pas seulement, sous-entendu, des herbes amères. Alayla Azé, Kulo Maro. Cette nuit, Maro. C'est la vague. Chevechol Alelot, Elanou Metavelin, Afilou Baramachat. Les Ashkenazim disent Matbilin, et les Sfaradim Metavelin. Le sens revient au même. Matbilin, ça veut dire Tbol, c'est tremper. On a vu, l'enfant a vu qu'on a trempé le céleri dans le salé. Les autres nuits, on ne trempe pas, même pas une seule fois. Alayla Azé, je te permets. Et cette nuit, deux fois. Chevecholalo, Tanou Ochlim. Les autres nuits, on mange. Ben Yoshvin, Ben Nesubin. Soit assis, soit accoudé. Nereite Nesubin, ça veut dire assemblé. Une messiva. Dans l'attitude que l'on a dans une messiva. Et on traduit habituellement accoudé. Alayla Azé, Kolalou Nesubin. Cette nuit, nous sommes tous accoudés. Tout ce qui fait encore partie de la première partie de la Havera. Nous avons la première Mishnah, qui est le début, où le père de famille explique qu'on va manger ce soir-là le pain sans levain. On n'a pas encore dit pourquoi, Mais tout de suite, l'enfant intervient et commence à demander qu'est-ce qu'il y a de différent cette nuit par rapport aux autres nuits. Et vous avez dû remarquer en suivant sur votre texte, c'est que dans le rite ashkenaz, on parle d'abord de la matzah, alors dans le rite sfaradi, on parle d'abord du karpas. Okay? Je ne sais pas si je vous ai expliqué ce mot, karpas, tout à l'heure. Karpas, ça veut dire le sel. Alors prenez le sefarad, manichtana laïla zem kolagot, je vais choler yot, et la nous metabellin na filipa amachad. On commence par parler de ce qui s'est passé d'abord, c'est-à-dire le karpas. Et après, les autres différences. Bien. Alors là, commence le premier récit. Le premier récit qui va, vous allez marquer ça sur vos livres. Vous avez la Mishnah qui commence par Avadim, une. Ensuite, Maase de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, deux. Ensuite, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, on a étudié sur la Gemara, ça fait trois, tout ça va ensemble. Et vous avez tout le récit des quatre enfants, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ce qu'on a étudié dans le document. Et là, Meshach et Mansor Moron, on a fait des Famecha. Là, on était entrés, c'est la première partie. On a mis l'articulation de la lettre. C'est une première réponse que le Magid va donner à l'enfant. Et dont le thème général est le suivant, je vous résume très, très brièvement. Nous étions esclaves en Égypte et nous avons été libérés. Et la manière dont les quatre enfants posent la question par rapport à l'événement. C'est un premier récit jusque-là. Okay? Ensuite, vous allez avoir un deuxième récit qui va expliquer et qu'est-ce que le peuple hébreu faisait d'abord en Égypte. Et qui va reprendre l'histoire depuis l'origine. Mais d'abord, le premier récit est directement a pour objet d'expliquer la raison de la commémoration de la nuit du Seder, la sortie d'Égypte. Alors l'articulation, nous étions esclaves en Égypte et nous en sommes sortis par intervention miraculeuse. Vous voyez, finalement, la définition de ce premier récit est très simple. Avadim ayinu, vayotzi anu, Hashem elokeinu mitzrayim. Alors on va étudier les Mishnayot qu'on n'a pas vu sur cette première partie, un peu rapidement quand même. Premièrement, le premier paragraphe. Avadim ayinu les pharaons de Mitzrayim. Nous étions esclaves au pharaon en Égypte. Suivez bien, parce que je vais vous donner quand même au moins un terme de réflexion par rapport à chaque paragraphe. Vous voyez ? Ouais. C'est la réponse du chef de table à la question. L'enfant a demandé qu'est-ce qui se passe. Premier récit, première réponse. Avadim ayinu les pharaons de Mitzrayim. Nous étions esclaves au pharaon en Égypte. Ayotie, nous, Hachem, le Kedouichav, et Hachem, notre Dieu, nous a fait sortir de là-bas, Beyat Hazaka, ou Vidoran et Touya. C'est l'explication classique que la Torah demande de donner à l'enfant. C'est-à-dire par une intervention en force, Beyat Hazaka, ou Vidoran et Touya, avec une main forte et un bras étendu. Et il nous, l'Otie à Kadosh Baou, et si, si Akadosh Baruch Hu, Dieu n'avait pas fait sortir et t'avoté nous en Israël, nos pères de l'Égypte, alors à nous, nous serions nous-mêmes, à nous, Banelou et nos enfants, mais Banelou et nos petits-enfants, mais Shurbadim a servi les pharaons de Mitzrayim aux pharaons en Égypte. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette traduction? Je reprends très brièvement. Avadim ayinu les pharaons de Mitzrayim. Nous étions asservis aux pharaons en Égypte. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir de l'Égypte, de nos ancêtres de l'Égypte, deuxième phrase, troisième phrase, nous serions encore, nous et notre descendance, asservis aux pharaons en Égypte. Qu'est-ce qui nous frappe? Il y a un mot de trop quelque part. Ou quoi?
Les pharaons
et
expliquez,
admettons que ce soit en Égypte. Expliquez.
Je reprends la question. Regardez les trois phrases. Nous étions esclaves au Pharaon en Égypte. Deuxième phrase. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous serions encore esclaves au Pharaon en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est pendant que le Seigneur, on est en Égypte.
Ne contredis pas le texte. Le texte dit le contraire de ce que tu viens de dire.
On est sorti par force.
Non, c'est pas tellement ça qui est le problème. Okay.
On a l'impression de personnes qui traversent le temps. Comme ça. C'est toujours, on a l'impression que c'est toujours la même personne.
Et non, mais il y a une contradiction de temps d'abord.
C'est quoi?
C'est ça. C'est-à-dire que nous avons été, c'était un passé composé, je crois, en vie. Et puis,
Il n'y
a pas de concordance de temps.
Nous étions, nous, le peuple d'Israël, esclaves en Égypte. Et si Dieu n'avait pas fait sortir à voter nous, nos ancêtres d'Égypte, nous serions encore, nous, esclaves au Pharaon d'Égypte.
C'est
comme
si
c'était
fait
au Pharaon
d'Égypte, mais au Pharaon. Très bien.
C'est pas comme ça. Ça veut dire que tout se passe comme si cette Michelin veut nous faire comprendre que nous sommes toujours asservis au Pharaon, mais plus en Égypte. D'Égypte, on est sorti. Mais d'esclavage au Pharaon, pas encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair? Oui, il faut toujours resserrer le texte de façon simple. Je reprends les trois phrases. Nous étions esclaves au Pharaon en Égypte. Deux facteurs. Au Pharaon en Égypte. Et si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres de l'Égypte, premier facteur annulé, l'Égypte, nous serions encore, nous, asservis au Pharaon en Égypte. Ça veut dire d'Égypte nous sommes sortis, mais pas de l'esclavage du Pharaon. C'est clair? Donc ici apparaît une catégorie double avec deux facteurs. Être asservi au Pharaon, c'est une chose. Et en plus, deuxièmement, en Égypte. En tout cas, de l'Égypte, on est sorti, c'est irréversible. Mais du Pharaon, pas encore. Et alors, il y a le thème que nous avons vu hier. La sortie d'Égypte est irréversible comme sortie d'Égypte, mais nous devons réussir la délivrance définitive. C'est clair ? C'est-à-dire, tout se passe comme si, à la sortie d'Égypte, ce qu'il y a d'irréversible, c'est d'avoir été asservi à ce type de société-là. Ok ? Qui s'appelle l'Égypte. Mais au Pharaon, nous sommes toujours encore assez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça nous verrons d'autre part. Mais je voulais vous le mettre en évidence. C'est pas comme si une partie de nous est encore aliénée à ce que représente cet asservissement au Pharaon. En tout cas, il y a quelque chose de définitif. C'est que nous ne sommes plus dans ce cas d'être en esclavage de l'Égypte. Je vais essayer de le traduire très rapidement. Le fait que nous soyons sortis d'Égypte fait que l'identité que nous avons en tant qu'Israël nous rend réfractaires à accepter tout esclavage de l'Égypte. Vous comprenez l'idée ? Par définition, un juif est quelqu'un qui ne peut pas accepter l'esclavage. Il est sorti d'Égypte, il ne peut pas y revenir. Maintenant, l'asservissement au Pharaon, ça c'est l'exil qui peut être n'importe où, mais pas l'Égypte. Je vous cite ici un enseignement qui vient du Maharal, c'est-à-dire nous avons de façon indélébile dans notre inconscient ou dans notre être profond ce fait qu'on ne supporte pas l'aliénation. Il y a un côté, si vous voulez, anarchiste dans le sens étymologique que nous avons reçu en héritage de cette expérience de la sortie. En Égypte, on ne revient pas, même si on a de nouveau été mené à un autre exil. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, même un juif revenu en exil, c'est un homme libre, enchaîné, mais libre. Un homme qui ne reprendra plus une mentalité d'esclave, qui ne supportera plus l'esclave. C'est bien clair, je me suis bien fait comprendre. C'est pour ça que vous avez, chaque fois qu'il y a un mouvement culturel ou politique qui va dans le sens d'une plus grande libération humaine, vous avez un juif en grand, dans le peloton de tête. Vous avez remarqué ? Il n'y a pas tout ça là-bas. Bien, alors ça c'est la première partie de la Mishnah. Rafilou. Et même si Kulanu Hachamim, nous étions tous des Hachamim, des sages, Kulanu Nevonim, tous des hommes intelligents, Kulanu Skenim, ça on ajoute chez les Ashkenazim, tous. Comment dire Skenim ? Sage, pas vieux. Ici, c'est sage dans le sens de la sagesse que donne l'âge. Skenim.